Je sais pas chez vous, mais chez nous, à Noël, avec tous ces chocolats, la motivation pour aller faire du sport est en dessous de zéro. Heureusement qu'à la télé, on a trouvé plein d'athlètes qui voulaient bien en faire pour nous.
Avec le Noël spectaculaire de SFR, profitez du meilleur du foot anglais et portugais en exclusivité avec la fibre starter et SFR Sport à 19,99€ par mois. Et pas seulement la première année. Appelez le 1090, service et appel gratuit.
Offre soumise à condition d'éligibilité valable jusqu'au 8 janvier 2018, réservée aux nouveaux clients. Plus 5€ par mois de location box, engagement 12 mois, frais d'ouverture de service 49€.
RMC, PLM et tous les compagnies, boy. PLM par-ci, PLM par-là. Oh, ça va. On a le droit d'exister un petit peu ou pas?
Le Super Football Show.
Très 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 compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot.
Oh, nom de Dieu, bordel de merde, que c'est bon! Bordel!
Nicolas Villas.
Ravi de vous retrouver, nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Vous êtes bel et bien dans l'after avec Prince Ali, Prince Ali Benarbia, bonsoir.
Bonsoir Nicolas, qu'est-ce que t'es?
Oh, ne pas.
Avec le ne pas, couleur de l'OGC Nice ou de Rennes? Je
ouais,
sais pas.
Ouais, le stade rennais, tiens. Petite, je vais faire plaisir à Jérôme Thomas parce qu'il a pris
une. Ah, ça lui a servi, après t'as mis la veste noire pour.
Pour le deuil.
Pour le deuil, exactement, dommage.
Bien évidemment. Jonathan Bacardi est avec nous ce soir. Salut Jonathan.
Salut les gars. Oui.
Alors c'est quoi comme mignon. Bleu là? Alors c'est quoi comme bleu?
Ça, c'est un bleu. C'est trop beau, je m'étais pas habitué à avoir des beaux mecs, ça te choque?
Ouais, j'ai pas.
C'est pas un bleu roi ça.
Dans le miroir, c'est pour ça.
C'est quoi comme bleu? Jonathan, c'est quoi comme bleu? C'est pas un
bleu violine, ça.
Après, c'est joli.
Pétrole.
Le bleu est joli. Le violine. Non, 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 c'est violine. Ouais.
Violine.
Ouais, ouais.
Pétroline. Non.
Je mets quand même mon bleuet.
Alors,
si c'est passé.
J'ai vu ça.
Pourquoi le bleuet?
C'est pour faire penser aux gens que, bon, bah, à ceux qui l'auraient pas acheté pour le 11 novembre, de le prendre quand même au mois de mai.
Voilà, voilà.
Et on est un des soins.
Donc, et ben alors, mais c'est pour penser de le prendre au mois de mai. Ça va pour les pupilles de la nation.
Pour les pâquerettes. Vas-y.
Si, un journaliste engagé, hein, Jonathan Macardia.
C'est patriote.
Non, je rigole. Pupille savant junior, me demande Jérôme Thomas, bien entendu. Au programme de cet after, la suite de la 18e journée de Ligue 1. Alors les résultats de cette soirée, on ira également en Espagne, on ira en Angleterre. Il y a également la finale du championnat du monde des clubs qui s'est jouée ce soir. Le Real s'est imposé 1-0 face au Rayo. Équipe brésilienne, coup franc de Cristiano Ronaldo, l'homme qui a remporté son 5e ballon d'or il y a quelques jours. Et puis on sera également en Italie, parce qu'il y avait des belles affiches en Serie A et ça bouge en tête du classement. Simone Rovira nous expliquera tout ça dans quelques instants. Les résultats de la 18e journée de Ligue 1. Hier, Monaco a cartonné Saint-Etienne 4-0. Victoire du PSG tout à l'heure à Rennes, 4-1. Strasbourg s'est imposé 2-1 face à Toulouse. Quand Guingamp, il y a eu 0-0. 3 s'est imposé 1-0 face à Amiens. Alors avec une histoire de goal line technology sur laquelle on va revenir dans quelques instants. Dijon s'est imposé 3-0 face à Lille. Victoire de Metz à Montpellier 3-1. Deuxième victoire de la saison pour Metz en Ligue 1. La deuxième à l'extérieur d'ailleurs. Et puis demain à 15h, il y aura Nantes-Angers. À 17h, Nice-Bordeaux. Et à 21h, match que vous pourrez suivre à partir de 20h. La grosse affiche de cette journée, ce sera entre Lyon et Marseille. Au classement, bah le PSG, hein, toujours devant, avec ses 9 points d'avance sur Monaco. En attendant le match de demain entre Lyon et Marseille, les Lyonnais et les Marseillais qui pour l'instant sont à 3 points de l'AS Monaco. À la 5e place, on a Nantes avec 27 points, qui a 8 points de retard sur Lyon et Marseille. Rennes est 6e, Strasbourg remonte à la 7e place, les Strasbourgeois sont à 1 point.
Ils ont échiné la victoire.
Exactement. Et en bas de tableau, on a Metz maintenant avec 8 points. Alors ils ont quand même 7 points de retard sur Angers, et qui est avant-dernier, et 10, donc 19e avec un match en moins. Et on a Lille qui est barrage avec 18 points. On a Toulouse 17e avec 19 points. Saint-Etienne et Bordeaux 16e et 15e avec 20 points.
Ça va pas fort, hein, pour nous. Extrêmement serré, ouais. Extrêmement.
Saint-Etienne et Bordeaux qui jouent le Mendy, c'est pas mal.
Je pense que ça va être aussi cette saison, autant en haut qu'en bas, ça va être
une galère.
Je vous donne quelques résultats européens. Juste un résultat de Ligue 2 avant également. Reims a battu Valenciennes 5-1 cet après-midi. Les Rémois qui sont plus que jamais leaders de Ligue 1. En première ligue, 18e journée de première ligue, Palace s'est allé s'imposer 3-0 à Leicester. Défaite de Puel donc face aux Eagles. Newcastle s'est incliné face à Arsenal 1-0. Victoire d'Huddersfield à Watford 4-1 avec un très beau but d'Abdoulaye Doucouré, un de plus d'ailleurs. West Ham est allé s'imposer 3-0 à Stoke. Chelsea a battu Southampton 3-1. Pas de but entre Brighton et Burnley. City a battu Tottenham 4-1. On sera avec Philippe Auclair pour revenir en détail sur tout ça. 17e journée de Liga en Espagne, 0-0 entre Bilbao et la Real Sociedad. Valence a perdu à Eibar 2-1. Voilà, ouais. Ça c'est important aussi. Ça joue en ce moment même entre l'Atlético de Madrid et Alavés. Je vais donner un résultat dans quelques instants. Chelsea c'est 1-0, j'ai dit quoi?
2-1, tu
Ah ouais? Bah non, c'est 1-0. Chelsea en plus j'ai bien noté. 3-1, c'est qui? C'est personne. Il y a 0-0 à la 64e minute pour l'instant entre l'Atlético de Madrid et Alaves. En Bundesliga, le Bayern s'est imposé 1-0 à Stuttgart. Dortmund s'est imposé 2-1 face à Hoffenheim.
Ah ben.
Et en Serie A, l'Inter a perdu à domicile face à l'Udinese 3-1.
Oh non, que...
Le Napoli est allé s'imposer au Toro 3-1. Et la Roma Cagliari, ça joue en ce moment. Et il y a 0-0. Pareil, on a dépassé l'heure de jeu. Ça bouge en tête du classement, du coup.
Et du coup, ouais.
C'est bien, c'est intéressant. Ah ben, avec la Juve, et bah.
C'est vrai. On y reviendra tout à l'heure
et
avec
le Napoli, il se replace et puis la
Roma, Napoli, ouais. Juve, Inter
avec
Milan.
Le mercato qu'ils vont peut-être faire cet été, enfin cet hiver.
Dommage que le Milan n'a pas accroché wagon.
Le Napoli s'ils prennent Berardi en plus cet hiver, ça
attention. Avant de revenir au foot étranger, d'abord l'important c'est la Ligue 1, l'important c'est les 3 points.
L'important c'est l'essentiel.
Le plus important c'est les 3 points.
Et souvent l'essentiel c'est le plus important.
Et l'essentiel, c'est le plus important, c'est Ali Benarbia. Quels sont tes 3 points ce soir, Ali? Tu les as retrouvés ou pas?
Je les cherche.
Cherche dans son téléphone, Ali.
Attends,
la goal line technologie.
Voilà.
Sinon, ça y est, c'est bon. Il y a un truc qui s'appelle un synthé, on appelle ça dans le jargon.
Alors.
C'est marqué en bas sur ton.
Oh, et c'est points. Mieux écrit, en plus, et on voit mieux.
Il n'y a pas de faute là-dessus, par
mais t'as un temps, ils nous mettent Miss France.
Mais de temps en temps, ils font des fautes quand même aussi.
Ouais, exactement. Je sais pas ce qu'il trafique, le Rénois, là, parce qu'il a perdu. Mais bon. On va passer à l'essentiel. Et l'essentiel?
C'est 3 points.
C'est les 3 points. Wesley Saïd, un attaquant que j'aimais beaucoup à Guingamp. À Guinga ou à Rennes?
À Rennes, à Rennes.
À Rennes, et que Gourcuff ne lui faisait pas du tout confiance, et qu'ils ont prêté une fois, après maintenant ils s'en sont débarrassés.
Pas Gourcuff, Ali, hein. C'était même Antonetti, il le faisait pas jouer.
Déjà
hein.
Avant.
Ouais.
Déjà avant. Mais même Gourcuff ne le faisait pas jouer non plus du tout. Et c'est dommage parce que c'est un attaquant que j'aimais, de rupture, avant-centre, qui a porté énormément. Là, il nous a mis un très beau doublé, et je suis content que cet attaquant s'exprime, et j'espère qu'il va continuer à s'exprimer. Ça, c'est une PSG.
Et il met deux beaux buts, notamment le premier. Ouais,
hein.
Il
a volé
le mec.
Ah non. Et s'il est en confiance, il peut faire beaucoup de mal, parce que t'as vu, deux buts, il tient très très bien sur ses cannes, il protège bien le ballon, et il a une accélération, un petit peu style, comment on dit ça? Un dragster? Ouais, c'est ça?
Dragster, ouais.
Dragster, c'est le joueur du PSG. Au
fond. Ouais, il est plus fin, ouais, celui-là.
Et donc, deuxième point, PSG toujours.
PSG toujours dans le sens où il continue, malgré tout ce qu'on dit, à aller même à l'extérieur et à planter pas 1-0 ou 2-0, mais un petit peu comme ils font l'AS Monaco l'année dernière. Même s'il gagne.
Même si c'est un match un peu bizarre.
Exactement.
Quand même,
ouais. Comme ça fait, il arrive quand même à 4 buts. Même s'il y a l'expulsion ou pas. Alors avant, il continue à gérer. Et ce que j'aime bien maintenant, c'est qu'ils essaient d'en mettre un maximum de buts. Donc, PSG, donc, ils continuent dans leur continuité. Je parle bien. En Ligue 1.
Continue dans la continuité.
Ça veut dire qu'il continue deux fois plus.
Ouais. Voilà, ouais, exactement. Et Manchester City, je l'avais dit depuis le début, ça y est, le championnat est tué à la victoire à Manchester United. Mais là, en plus, ils nous remettent une couche.
T'as 4-1 contre Tottenham.
4-1 contre Tottenham, qui est une très bonne équipe. Et encore, ils ont bouffé encore des occasions, Manchester City. Et alors, il y a un joueur que... En fait, je sais même pas si j'ai déjà vu
un joueur. Et sans David Silva, qui était pas titulaire, hein, pour raison personnelle.
Je sais pas si j'ai vu un joueur, depuis très longtemps, qui est aussi complet que De Bruyne.
Ouais,
c'est-à-dire, je connais pas un joueur qui frappe aussi fort des deux pieds, qui marque des buts en dehors de la surface des deux pieds, qui sait jouer tous les postes, qui sait tirer les corners, les coups francs, les pénalties, qui sait faire des passes, des changements d'aile, casser les lignes, récupérer des ballons, et je l'ai vu encore tacler 3-4 fois comme un fou, alors qu'à 4-1, je suis désolé, un joueur aussi technique, il évite les contacts, ben il est énorme, bravo City, et ben, on est champion.
Ouais. Et demain, Manchester United jouera également. Il y a un match de Manchester United demain. Putain, j'ai oublié face à qui c'est d'ailleurs.
Il joue en Angleterre.
Merci, voilà. En plus, c'est sur SFR Sport.
Exactement.
C'est face à West Brom.
Of
West
course.
Brom,
of course.
T'es 3 points, Ali.
Jonathan.
T'es 3 points, Jonathan.
Premier point, c'est que Strasbourg continue. Troisième victoire d'affilée. Et c'est une équipe, en fait, qui n'est pas flamboyante, mais on sent des certitudes dans cette équipe. Je pense au milieu de terrain avec Aoulou, Goncalves, Martin. La défense centrale. Ouais. Goncalves, excusez-moi, monsieur. Mangan connaît, c'est sur le papier, ça fait pas rêver, mais sur le terrain, ça fait le boulot. Je pense que c'est une équipe qui a de plus en plus de certitudes et qui progresse. Et je les vois se maintenir très facilement et continuer à jouer les poils à gratter face à certaines grosses équipes. Le deuxième
Strasbourg
point.
Strasbourg est septième, hein, on le rappelle.
Exactement.
Sixième match d'affilée sans défaite en Ligue 1.
Victoire d'affilée.
Surtout.
Deuxième point, Paris sérieux. Alors, Paris a été sérieux. Il y avait un Neymar qui était en feu. Ils ont tué le match dès le début, ce qu'il fallait faire. C'est un match de fin d'année. Les fêtes arrivent. La phase de poule de Ligue des Champions est bouclée. Là où les baisses de concentration pourraient arriver. Mais non, Paris a été sérieux. Je mettrai juste un bémol et je continue de le mettre depuis le début de la saison. Il y a aucun des défenseurs centraux qui me rassure pour l'instant. Je pense qu'Emery n'a toujours pas trouvé la formule. Alors Kimpembe, il se fait exclure. Moi, j'ai trouvé qu'il avait, outre son carton rouge, j'ai trouvé qu'il avait manqué de concentration. Marquinhos, j'ai l'impression qu'il a un cran en dessus par rapport aux années précédentes. Thiago Silva, Thiago Silva, on a fait et refait les débats sur son sujet. Voilà, pour moi, l'interrogation du Paris Saint-Germain. pendant cette trêve, plus que le poste de numéro 6, ça va être cette charnière centrale pour trouver la bonne formule pour attaquer les joutes européennes et les matchs du printemps, c'est-à-dire ceux qui comptent, avec beaucoup plus de sérénité. Et le troisième point, c'est OLOM, le choc, le vrai choc pour moi depuis maintenant peut-être 5-6 ans. Il y a eu tellement d'épisodes dans l'historique avec les Olas, on se rappelle les joutes verbales entre Jean-Michel Aulas et Pape Diouf.
Et la brune.
Le fait que Paris Saint-Germain passe dans une autre galaxie, pour moi, c'est le vrai match de notre championnat. C'est-à-dire le plus compétitif, là où il y a le plus d'enjeux, là où il y a le plus d'intrigues, là où il y a le plus d'histoires et de passifs récents. Et j'ai hâte d'être à ce match-là demain parce que c'est deux équipes qui sont compétitives. Il y a l'Olympique Lyonnais qui, à mon sens, est un petit peu sur la pente descendante récemment, mais ça va être un super match et j'ai vraiment hâte d'être à demain.
Je vous donne mes trois points également. Sachez que vous pourrez réagir sur le hashtag RMC Live et nous appeler au 32-16, bien entendu, pour débriefer ces matchs de Ligue 1. Alors moi, c'est Neymar, mon premier point. Parce que alors double buteur, ok, passeur décisif, ok, mais il a fait un match
Neymar. Ouais, c'est énorme.
Alors j'ai l'impression qu'il adore jouer contre les Bretons. Hein. Vous vous souvenez du match face à Guingamp là où il avait tout éclaboussé également dans ce match-là. Il a été monstrueux.
C'est
Neymar.
Atlantique, ça se rapproche du Brésil.
C'est pour ça, voilà. C'est
pas très loin du Brésil. Mon petit gazon, c'est bien pour toi.
Ouais, c'est bien. C'est vrai que j'ai Neymar également. Mais alors,
il va peut-être gagner un autre match.
À savoir deux victoires d'affilée, ce serait les deux premières. Mais c'est vrai que Neymar, moi, je l'ai trouvé vraiment, vraiment très bon. Alors c'est un peu le symbole parce que Neymar a été très bon, Mbappé a été très bon aussi, Cavani a marqué aussi. Il a été important dans ses appels, même si il a marqué qu'un seul but, ça paraît cool de dire ça.
Un cran dessous.
À ce moment, oui.
Autre point.
Les vacances vont lui faire du bien.
Et d'ailleurs, on va en parler dans quelques instants. C'est la crise qui couve à Lille. Alors, Lille qui s'est inclinée 3-0 à Dijon ce soir. Ah Lille qui est barragiste.
Pourtant, il n'y a plus le pestiféré.
Ouais, alors bien ça n'est plus là. Mais alors, justement,
c'est la continuité du travail du pestiféré.
C'est là où, si tu veux, il y a vraiment crise
jusqu'au mercato.
C'est là où il y a vraiment crise à Lille. Et c'est vrai que nous, on en parle depuis pas mal de semaines, pas mal de mois également. Mais c'est qu'il y avait une crise sur le terrain, c'est vrai, mais il y a une crise aussi en dehors. Et ça se ressent. Le départ de Bielsa qui risque de coûter des millions au club. La DNCG qui épingle le club également aussi. C'est vrai qu'on commence vraiment à flipper pour le LOSC. Les choses sont pas forcément très très joyeuses du côté de Lille. Et puis alors Le Texier, l'arbitre du match entre Troyes et Amiens. Alors Le Texier, tu vois, il avait une paire de couronnes comme ça. Voilà, il les a mises, il a fait pam comme ça Le Texier. Pourquoi ? Parce que alors il y a une action, alors un corner qui a été joué par les Troyens. Tête de souk. Alors qui est rentré ou pas, l'arbitre ne siffle pas tout de suite. Et vous savez, le système de la goal line technologie, ça n'est pas la vidéo, hein. C'est bien la goal line technologie. Normalement, il y a des capteurs. Et quand le ballon franchit la ligne, la montre de l'arbitre, eh bien, elle vibre. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce que François Le Texier a expliqué. Alors, ça a donné pas mal d'arrêts de jeu au cours de ce match. François Le Texier est allé voir l'un des délégués. Il lui a demandé, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que lui, il avait vu des images également. On l'a vu d'ailleurs là-dessus. C'est pas le moment où le ballon tape sur la ligne. Cette fameuse image vidéo que vous avez pu voir sur BFM Sport. Mais lui, il a pris ses responsabilités. Il n'a pas validé le but alors que la montre avait vibré. C'est pas la première fois que ça déconne, cette histoire de montre qui vibre. Il a que 28 ans, François Le Texier. C'est un très très jeune arbitre. Et souvent on critique les arbitres. Bah là, bravo mon gars, parce qu'il a pris ses responsabilités. Et c'est surtout une chose. En ce moment, on parle beaucoup des débats autour de la vidéo. Ça prouve une chose, c'est que technologie ou pas dans le football, la décision finale, elle reviendra toujours à l'humain.
Et ça,
c'est essentiel. Et on en a eu la preuve encore aujourd'hui.
Pourquoi, Nicolas ?
Pourquoi quoi ?
Pourquoi ça reviendra toujours à l'humain ?
Mais il faut que ça revienne à l'humain.
Pourquoi l'arbitrage vidéo est une incohérence ? C'est pas une question de sémantique, c'est un arbitre. Et c'est pas un juge.
C'est ce qu'on dit.
Mais la vidéo n'est pas forcément là pour juger.
Ça peut être un outil. La vidéo doit permettre de tendre à une sorte de justice. C'est-à-dire une décision totalement juste. C'est-à-dire qui est objective. Non, parce que dans le foot, t'as un arbitre. C'est pas un juge comme au tennis ou comme je sais pas quel autre sport.
Non, mais là, c'est un arbitre. Alors là, t'as tout dit. C'est une question de sémantique.
Eh ben oui, mais qu'est-ce qui est plus important que la sémantique ?
Non, mais le but, c'est de réduire. Ça n'existe pas. L'erreur zéro, c'est de réduire au maximum.
Mais c'est ce que je dis. Le football a un arbitre. Donc par essence, c'est quelqu'un qui donne un jugement arbitraire et qui est donc sujet à l'erreur, à l'interprétation. Donc à partir de là, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Il faut que ça
c'est une aberration
clair.
De vouloir rendre un jugement parfait.
Là-dessus, on est d'accord.
Il faut que ça soit clair, c'est juste l'arbitre qui a une option, une aide à côté, de dire si je veux voir que je ne suis pas sûr, mais ça décide de moi, je vais au bord de touche, je vois la vidéo, si j'en ai besoin.
Mais ça, il n'est pas sûr, qu'est-ce que ça fait?
Mais c'est lui qui décide.
Mais ça il peut se tromper. C'est un arbitre, c'est pas un juge.
Mais tu veux que je te dise, moi, il y a juste un truc qui me gonfle sur les débats, sur la vidéo, c'est qu'au final, tout le monde donne son avis. Et finalement, on prend très très peu l'avis des principaux concernés, à savoir les arbitres.
Exactement.
Dans tous les pays où ça a été mis en place, et ça se passe pas forcément très bien, alors que ce soit l'Italie, l'Allemagne, le Portugal, les Pays-Bas, ça se passe pas forcément très bien parce que c'est perfectible. Et que, Inch'Allah, quand la France l'aura, bah, ce sera justement perfectionné. Mm-hmm. Mais c'est que les arbitres ont leur avis, ils le disent.
Ouais,
même si c'est pas génial, nous, pour nous, c'est un outil et ça nous
aide. Que en fait pourquoi ils sont pas à l'aise, c'est parce que on fait tous le débat de savoir est-ce qu'on met la vidéo ou pas, mais on devrait pas le faire ce débat là parce qu'encore une fois j'aime répéter, mais ce sont des arbitres, ils ont le droit de se tromper, c'est le sens même du mot.
Jonathan,
ils ont le droit de se tromper,
c'est pas des juges.
Non,
ils ont le droit, mais tu joues sur les mots. Le but c'est que le mec qui prenne une décision.
Non mais Jonathan, c'est pas ça,
joue sur les mots, mais dans ce cas là changeons le champ lexical.
On s'en fout, c'est pas parce que tu changes qu'il fera pas de conneries.
Pourquoi il y a un changement? C'est que de plus en plus, c'est tellement important qu'ils ont de moins en moins le droit de se tromper.
Je suis peut-être bête et méchant, mais dans ce cas-là, alors arrêtons de les appeler arbitres, appelons les juges, alors.
Attends,
Jonathan.
Et alors, la langue française, elle est belle pour ça?
Non, mais attention, c'est pas parce que tu vas les appeler des juges sur un terrain que c'est une loi.
Dans ce cas-là,
c'est plus une loi, c'est du football. C'est pas une loi.
Et pourtant,
c'est pas
ça,
parce
c'est
que
c'est
pas
du jeu. Vous voyez bien toute l'incohérence
Les lois
du système. Toute l'incohérence du champ lexical du football. C'est qu'on parle d'arbitres qui font appliquer des lois du jeu. Ouais. Rien que ça, c'est des
îles.
Mais là, tu nous fais chier pour un mot, Jonathan. Mais c'est pas ça le problème.
C'est important, Nicolas.
Oui, tout à fait, Jonathan.
C'est important.
Non, tu sais pourquoi?
Monsieur Bénard, s'il vous plaît, les Français veulent savoir.
Exactement. Moi, je crois qu'il est content parce qu'il a trouvé arbitre et juge. Et il joue surtout sur ça. Est-ce que j'ai raison, Jonathan?
C'est pas que je suis content, mais c'est que de la sémantique. C'est de la
langue.
Mais
c'est bon, on a entendu la sémantique. Le football, ce n'est pas une loi. Il y a des règles. Attention, pas de loi. Les règles du football.
Ça s'appelle les lois du jeu, Ali.
Oui, c'est des règles quand même.
Mais ça s'appelle les lois du jeu.
Oui, c'est totalement différent dans la société où tu as des lois à suivre, feu rouge ou quoi que ce soit, ça c'est autre chose. Et là, ce qui se passe, c'est qu'un arbitre, bien sûr, il a le droit de se tromper. Mais on essaye, avec tous les enjeux qu'il y a, qu'il essaye de se tromper loin. C'est pour ça qu'on lui donne une aide.
Mais d'ailleurs, ce que disent ceux qui ont mis en place la vidéo, et notamment les arbitres, c'est ce qu'ils disent. Nous, on sait très bien qu'il n'y aura jamais une décision qui ne sera pas discutée et elles seront de toute façon discutables. Ce qu'on veut, c'est réduire au maximum le nombre d'erreurs et le degré d'erreur.
Dans ce cas-là, tu vas à l'encontre même de l'essence du football. Tu vas à l'encontre de l'essence de ce qu'est le football, c'est-à-dire un sport régi
par
un
humain
qui rend un jugement arbitraire et qui laisse place au doute et à l'erreur. Ce qui fait toute la beauté et le romantisme de ce sport-là. Donc dans ce cas-là, tu vois, si tu veux robotiser l'ensemble, mettre des vidéos pour être sûr d'avoir toujours la bonne décision dans ce cas-là, arrête d'appeler ça un arbitre, appelle ça un juge.
Et dans ce cas-là,
tu fais ça, tu mets la vidéo de partout.
Jonathan, une réaction sur le hashtag RMC
Live. Big Brother.
Mani nous dit basket, rugby, ce sont des arbitres également, pas des juges entre guillemets. Pourtant, il y a la vidéo. Cet argument.
Ah, ça marche bien en rugby,
l'arbitre. Ah, c'est comme ça. On va accueillir Arnaud, messieurs, qui était au stade.
Et ce soit validé, ça marche bien.
Arnaud était au stade de l'Aube ce soir, on rappelle. Messieurs, pas en même temps.
C'est vrai aussi.
Il était au stade stade de l'Aube. De toute façon, les stacks s'étaient imposés 1-0 grâce à un but de Darbion en toute fin de match. Salut Arnaud.
Salut l'acteur, salut.
Arnaud. On est vénère, on est chaud là.
Salut Arnaud. Le juge, salut l'arbitre.
Bon, alors toi, tu étais au stade, Arnaud. Comment t'as vécu ce moment? Alors ce but, alors ce non-but de Souk d'ailleurs.
Ouais, donc moi, c'est un peu incompréhensible parce que tout simplement, nous, on est spectateurs. Le Souk fait une tête. Et il fait une tête et en fait il se passe déjà au moins 3 ou 4 secondes avant que l'arbitre indique que sa montre sonne. Donc ça sonne, tout le stade est en ébullition, forcément on est content.
Ah, vous l'avez entendu sonner?
Non mais ça sonne. Non mais l'arbitre montre vraiment sa montre de la main
et
il fait signe à tout le monde que ça sonnait. Donc voilà, le stade explose. Les Amiénois se révoltent au moment de faire l'engagement.
Tu m'étonnes, ouais.
Il se passe un débat qui dure peut-être 3-4 minutes. L'arbitre confirme sa décision d'avoir validé le but. Les Troyens reviennent sur le terrain, notamment Azamoum, en claquant des mains et en étant content. Le stade fait à nouveau une deuxième fois le but. Et les Amiénois ne veulent toujours pas engager. Repartent discuter. Il se passe encore 3-4 minutes. Et là, on invalide le but. Donc l'arbitre, vous pouvez dire qu'il a été courageux. En fait, il s'est
déjugé deux fois.
Ouais, il y a eu deux fois où il a dit que c'était positif, et la troisième fois, il dit que c'est négatif. Il y a quand même un moment où ça déconne. Il y a déjà la décision de l'arbitre qui peut être qui a été remise en cause par lui-même en fait, et sûrement sur le conseil de je sais pas combien de personnes quand il s'approche de la touche et qu'il se fait engueuler par les Amiénois. qui se fait prendre la tête, on va dire, par les coachs ou des gens.
Arnaud, si pression il devait y avoir, le match il était à 3 et c'est plus le public troyen qui fout la pression que le public piquant.
Le public troyen a foutu la pression. Par contre, moi j'ai l'impression que l'équipe troyenne n'a pas mis la pression. Donc peut-être que l'équipe troyenne n'avait pas l'impression que le but était totalement
non mais Arnaud tu penses pas tu penses nous l'impression qu'on a eu et d'ailleurs on l'entendait chez le diffuseur, il y a un micro qui était tendu au moment où justement François Letexier s'est dirigé vers le banc de touche pour parler aux délégués, il a demandé des explications aux délégués. C'est là où si tu veux il y a une hypocrisie vis-à-vis de la vidéo aussi, c'est que les matchs sont retransmis à la télé, que les délégués vont regarder ce qui se passe à la vidéo justement
et qu'ils disent rien.
Non mais de toute façon la GLT t'as accès après avec la vidéo tu peux voir si le ballon a franchi la ligne ou pas, et c'est vrai que le révélateur s'arrête pas au bon moment, puisqu'il s'arrête pas au moment où le ballon tape sur la ligne. Là, on pense que le ballon est rentré, mais au moment où il rebondit, il rebondit déjà.
Les gars, la GLT, ça devrait être la chose la plus simple à appliquer dans le sens d'aller vers l'arbitrage vidéo. C'est quand même un truc qu'on s'est affranchi, ça a pas franchi. Il n'y a pas de place à l'interprétation.
Exactement.
Mais ce que cette situation illustre parfaitement, c'est qu'en fait, quand tu veux à tout prix remplacer l'humain par la machine, en essayant de viser une certaine perfection, ça ne marche pas. L'histoire l'a prouvé, on va pas partir sur d'autres exemples que le football, on va rester dans le domaine du sport, mais ça ne marche pas. Laissons au football cet esprit un peu d'artisanat de l'arbitrage. Quand je vous dis artisanat, c'est au sens noble du terme. C'est des artisans, les arbitres. C'est des mecs qui sont des humains, qui rendent des jugements humains, le droit de se tromper, et c'est comme ça.
Ah
c'est
tout.
Reste avec nous,
faut qu'on fasse une petite
pause. Le problème de la goal line, ça par contre.
Mais c'est dingue.
Ça aide, ça.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le truc, ça devrait être le plus simple à
faire. Je vous demande de vous arrêter.
Ça rentre ou ça rentre pas?
Je vous demande de vous arrêter.
Je vous demande de vous arrêter.
Voilà, on fait une pause, on revient dans quelques instants pour la suite de l'after.
Ça vibre.
Vous êtes chiants là, parlez pas en même temps. Avec Ali Benarbi et Jonathan Ricardi, à tout de suite.
RMC, le super football show. L'afterfoot, Nicolas Villas.
Et Ali Benarbia et Jonathan McCardy, et vous également au 32-16 et sur le hashtag RMC Live, vous êtes pas mal à réagir. On est en train de revenir sur le problème qu'il y a eu avec la goal line technologie lors du match entre Troyes et Amiens, et le but qui n'a pas été validé après l'avoir été par François Letexier, le but de Souk, le long but d'ailleurs de Souk. Et Arnaud qui était au stade est toujours avec nous. Arnaud, je t'en prie, reprends, pardon pour cette interruption.
Oui, j'avais une petite question pour vous, justement. Vous trois ou quatre, vous êtes combien sur le plateau?
12, 12.
On est trois, on vaut pour 6.
Non, mais vous qui avez vu les images. Moi, j'ai vu aucune image, en fait. Qu'on soit clair, je suis sur le chemin du retour, j'ai rien vu du tout. Vous, déjà, entre vous trois ou quatre, je sais pas combien vous êtes, est-ce que vous, par rapport aux images que vous avez vues, les ralentis, etc., est-ce que vous, déjà, vous êtes d'accord sur le fait qu'il n'y ait pas eu but, ou voilà. Est-ce que vous trois, vous êtes d'accord déjà sur la chose?
Bah, il n'y a aucune image qui peut te prouver que le ballon est bien rentré.
Franchi la ligne. D'accord.
Il n'y a que la goal line.
Bah, finalement, normalement, si on part du principe qu'il y a des capteurs et qu'à partir du moment où le ballon a franchi la ligne, ça vibre, normalement, ça va fonctionner. Sauf que, il y a déjà eu des bugs avec ça. Et c'est ce que François le Texier s'est dit.
Non, mais sur l'image de la goal line, par contre, là, ils l'ont montré.
Oui, mais le problème, c'est que l'image ne s'arrête pas au moment où le ballon tape sur la ligne, mais au moment où il remonte déjà. Tu vois, c'est le truc qui est un peu bête, si tu veux.
Ah, d'accord.
Ah, bah oui.
Juste quand même une petite chose, que j'étais en train de regarder la chouillée parce qu'il me semblait bien avoir vu ça à l'époque. Vous savez que la Ligue de football professionnel a fait appel à une société qui s'appelle Goal Control pour la GLT, la Goal Line Technology. Or, dans d'autres pays, comme l'Angleterre avec la Première Ligue, l'Allemagne, l'Italie, alors eux, c'est le système de chez Sony qui s'appelle Hawkeye. Vous savez, je crois que c'est le même d'ailleurs qu'en tennis.
C'est également
ce système qui avait été adopté pendant l'Euro 2016 également. Je dis pas que le système de la Ligue est moins bon, mais c'est peut-être aussi un problème, je sais pas, de logiciel.
D'économie plutôt.
Technique, moins technologique, cher. Je sais pas si c'est ça, mais.
Oui, c'est ce que je pense, moi.
Je sais pas si c'est ça.
Oui, de toute façon, c'est sûr qu'il y a un problème d'informatique là-dedans, qui fait que quand on voit un gardien qui arrête le ballon et qu'on signale le but, il y a quelques journées en arrière, je crois que c'est Rémi Vercoutre qui a fait un arrêt, le ballon était devant le but et ça a sonné. Je pense qu'il y a un problème informatique. Mais là, quand vous dites qu'il n'y a aucune image qui prouve, et même des ralentis qui prouvent que le ballon rentre, on peut comprendre que la vitesse du jeu, c'est vraiment très très compliqué à juger une action comme ça, quoi.
De toute façon, l'arbitre central à la vitesse.
Pas jugé, arbitré, s'il te plaît.
Oui, arbitré. Oui.
Tu sais qu'on disait juge de touche avant aussi.
Oui, ça parce que ça n'a rien à voir. Parce qu'un juge de touche, c'est simple, la règle elle est simple, c'est un jugement. C'est un jugement, ça n'a rien à voir avec une interprétation. Je suis désolé, les juges de touche, ils doivent donner une décision qui est 100% objective. T'as pas le droit à l'erreur, il y a l'arrêt qui est clair.
Mais
ça
dis-moi
pas
une chose.
À l'interprétation, ça n'a rien à voir.
Le juge de touche, c'est l'interprétation qui donne.
Ah non.
Il est
géométrique. Il est censé décider au moment. Le hors-jeu, il y a hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu.
Ben non. Non, parce qu'il se trompe assez souvent.
Oui, ouais, mais dans l'essence, dans le principe, il y a hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu.
On s'en fout, l'essence.
S'il y a une main, il y a une main, tu arbitres s'il y a des involontaires ou pas involontaires. Il y a l'interprétation, ça n'a rien à voir.
Moi, juste un truc, un truc tout bête. Un truc tout bête.
En théorie, non.
Jonathan, un truc tout bête. On va aller dans le dico. Étymologie du mot arbitre. Du latin. Arbitre, spectateur témoin, arbitre juge. Non, maître qui oppose à son gré, arbitre suprême.
J'ai fait du latin, j'ai fait du latin. Non, j'ai fait du latin.
C'est pas vrai, il en a pas
parlé. Il a fait du latin
d'Irlande.
C'est pas un tweet qui a tweeté un tweet.
Non,
non,
non.
Non.
Parce qu'il a fait du latin en Irlande, chez les anglo-saxons. Mais le latin, c'est pas un anglo-saxon.
La définition est
parfaite.
La définition est parfaite.
C'est juge.
À partir du moment où tu as remis le mot juge.
Non, 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 c'est pas ça. Et en plus, en Irlande, t'as vu les juges qu'ils ont là sur la tête? Ils ont des bigoudis sur la tête.
Arnaud, ça a coupé. Oh, bah, Arnaud, bonne
chance. De toute façon, t'as gagné 1-0, Arnaud, on s'en fout qu'ils soient rentrés ou pas.
Nicolas, jusqu'à ce que
Victor 1-0.
Réincorpore le concept de juge dedans qui n'a rien à faire avec le monde d'arbitre.
Oublie juge, un arbitre, normalement, dans le football, c'est lui qui décide et c'est que de l'interprétation humaine.
Stop. Voilà, ben voilà. Mais on est d'accord.
Pour moi, même le juge de touche.
Mais tu sais que
c'est lui qui interprète entre le départ du ballon et au moment où il y va.
Un juge.
T'as déjà vu un juge avoir un œil qui fait comme ça et comme ça?
Mais je te parle en théorie quand tu vas dans l'étymologie du mot.
Ah ben voilà, on retourne. Tu sors du football là. Reste dans l'interprétation. Tu me reparles de l'étymologie du jeu.
Les mots ont un sens et une
importance. Je le sais, mais pourquoi on lui dit non, dans le même football, juge de touche,
bien sûr. Mais les mots ont quand même un sens et une importance.
Messieurs, on va parler peut-être un petit mot sur le match également.
Mais attends, juste pour terminer vraiment.
Vas-y.
Mais quand tu parles d'intégrer la vidéo donc dans le football, c'est pas juste les faits. Hein. C'est un débat qui est quand même
qui
est ontologique par rapport à l'essence du football.
Ouais.
Tu t'en fous.
Non, 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 t'as raison, mais
c'est un débat ontologique.
Exactement.
Allez, moi, le seul truc que je te dis que je retiens là, et vraiment, moi, je suis pas foncièrement pour ou contre la vidéo. Pour moi, il y a vraiment débat et tout ce qui peut aider les arbitres, tout ce qui peut réduire l'injustice, pour moi, est une bonne chose. Après, il y a des choses qui peuvent l'être plus ou moins. Et on rappelle aussi que l'IFAB, le board, va trancher au mois de mars, une fois de plus. Donc, ça veut dire que la France devra attendre également le rapport du board au mois de mars pour savoir comment ça va être mis en place, si c'est mis en place à partir de la saison prochaine. Mais la leçon qu'on retiendra aujourd'hui, c'est que technologie ou pas, c'est de toute façon l'humain qui prend la décision, c'est pas une machine. On passe au match de Dijon face à Lille, la défaite de Lille, une de plus pour le LOSC, qui va rester barragiste, peut-être même d'ailleurs pire, à l'issue de cette journée. Lille, qui restait sur un nul, une défaite et deux victoires sur les quatre derniers matchs. Défaite 3-0 ce soir, doublé de Saïd, but contre son camp de Touré. Ça a mal à Lille en ce moment.
Ouais, et visionnaire Nicolas, parce qu'on se rappelle que Nico, c'était quoi, il y a 2-3 semaines, tu nous avais dit attention aux finances.
Ah, c'était pas visionnaire, c'est pour le coup on avait des infos. Ouais.
Ah ouais, Vous
pouvez que la DMCG allait être chiante et tout ça.
Ouais. Ouais.
Je retourne au début de saison, ce que je disais, et j'étais là. Ce club-là, s'y est vraiment très mal pris, à tous les niveaux, moi je pense. Au niveau de tous ces départs de joueurs, de ce loft, dès le début, j'ai jamais vu un loft aussi nombreux avec des joueurs quand même d'expérience, et Niama, Mavouba, Bassa, alors que c'est eux qui plus ou moins tenaient un certain temps
c'était
le club.
L'étolier.
C'était l'étolier. Il fallait progressivement les faire partir progressivement et qu'ils tiennent en même temps l'équipe, le temps que le club, la direction et peut-être le nouveau coach s'installent. Ils n'ont pas voulu faire ça. Ils ont amené des joueurs extérieurs et beaucoup de joueurs étrangers qui ne connaissaient pas la Ligue 1. Ils ont amené en plus un dirigeant qui n'avait jamais pris de club en dehors d'un club du Luxembourg. Et là, encore.
Tu parles de qui
Lopez.
Oui, mais c'est pas lui qui gère au quotidien, c'est Marc Ingla.
Oui, mais Marc Ingla, il s'occupait de quoi avant?
Bah, il était dans le board, enfin dans l'organigramme du Barça.
Oui, voilà, ils sont plusieurs dans le Barça et le
oui,
Barça.
Oui, c'était pas lui le DG du Barça.
Et puis Barça, il est géré totalement différent qu'un autre club. Mais en plus de ça, c'est que ils ont fait trop de départs, trop d'arrivées pour des joueurs qui ne connaissent pas la Ligue 1. Et de suite, dès qu'il récupère le club, quand il récupère le club, vas-y doucement, laisse les gens qui sont sur place, et par pointe, par touche, tu fais les changements. Là, il y a un changement total, et regarde ce que ça donne. Et je suis pas pour.
Mais alors, je vais faire mon mea culpa, parce que je suis pas. Enfin, au début, moi, je trouvais qu'au contraire, ils ont tout fait à l'envers. C'est-à-dire qu'ils ont nommé Marc Ingla, qui avait développé le Barça comme pas possible, il le nomme. Il nomme une pointure comme Campos, un directeur sportif. Il n'y a pas de discussion à avoir là-dessus. Ils prennent Bielsa avec une idée bien précise, c'est-à-dire de faire progresser des jeunes. Il n'y a pas de discussion possible. Moi, je trouvais que l'organisation, elle était parfaite au début. Je trouvais ça très prometteur. Et ça a pas marché parce que je pense que ils ont laissé trop de liberté. Alors est-ce que c'est néant ou pas, ça on saura jamais, mais trop de liberté à Marcelo Bielsa. Et à partir du moment où tu lui construis un projet sur mesure dans la logique bielsiste, si tu te sépares de la pierre angulaire du truc, ça peut plus marcher.
Bah, et puis surtout, surtout ça te coûte un bras.
Ça te coûte un paquet de pognon. D'une part de le virer, et déjà d'une part en ayant acheté des joueurs à des prix quand même assez importants.
Alors pourquoi cette décision alors à ce compte-là?
Mais c'est nerveux. Bah c'est là, c'est ça dont
tu discutes. Laquelle décision?
C'est ça dont tu
discutes. Partir?
Non. Première décision de non, pas de le prendre, de tout lui donner. Très mauvaise décision.
Bah, le problème à Lille, c'est que justement, on a l'impression qu'ils lui ont pas tout donné. Le problème qu'il y a eu à Lille.
Eh ben voilà, c'est ce que je dis.
C'est que Bielsa est venu.
C'est du sable, là.
Il y avait le fameux casting dont parlait Jonathan. C'est que sur le papier, c'était bien. Mais après, il fallait que ça colle.
Nico, je pense qu'il faisait partie du lot de sceptiques. Il y avait les premières rumeurs comme quoi Marcelo Bielsa allait arriver. On était tous incrédules. On dit, il va travailler avec Luis Campos, Marcelo Bielsa. Alors effectivement, au début, ça avait l'air d'être idyllique. Je pense qu'on s'est tous, encore une fois, laissé berner en pensant que tout allait bien dans le meilleur des mondes. Mmh. Les discours de façade étaient beaux. Et je pense qu'on y a tous cru, mais force est de constater qu'on s'est tous plantés. Il faut le reconnaître quand on se plante, dès que ça marchait pas si bien. Notre intuition de départ, comme quoi entre les deux, Campos qui a une logique totalement différente de celle un peu idéaliste, romantique de Bielsa, ça allait pas marcher. Finalement, ça s'est avéré. Et le problème, c'est que maintenant, avec cette équipe-là, cette structure d'effectifs-là, si tu restructures pas ton effectif au mercato d'hiver, je vois pas quel entraîneur, mis à part Marcelo Bielsa, est capable de sauver cette équipe-là.
C'est même pas ça. De toute façon, restructurer ou structurer, on lui a tout donné. On lui a pas donné un ou deux matchs ou trois matchs. Pendant tout ce temps-là, je parle pas des points. Hein. Pas des points gagnés, Jonathan. Je parle du jeu. Le jeu a été catastrophique du début à la fin, Bielsa. Mais on aurait dit des juniors qui se cherchaient.
C'est pas dit le contraire, Ali.
Oui, mais arrive. On te laisse.
En fait, tu me dis que t'es pas d'accord, mais je comprends pas en quoi on n'est pas d'accord là.
Non. T'as le Bielsa. Tu dis que ça va pas et qu'on lui a laissé le temps. Il n'y a que lui qui aurait pu faire quelque chose. Non. Il partait pour nous faire ça toute la saison.
Il y avait du mieux. Non, il y avait du mieux.
Il y avait du mieux.
Il a marché pas dans 6 mois à l'OM et il a terminé. Là, ça a été une catastrophe. Ça peut arriver qu'il marche pas.
Ce soir, pour dire les choses clairement, vous êtes chiant. Pierre, supporter du LOSC, vous appelez au 32-16. Salut Pierre.
Bonsoir.
Ils sont relous, Pierre. Je sais que en plus t'as pas le cœur à rigoler.
On est passionné, c'est pas pareil.
Non, vous êtes chiant.
Je pense que maintenant on essaie de prendre ça à la rigolade parce que ça.
T'es barragiste, c'est pas marrant quand même, Pierre.
Pardon.
T'es barragiste, c'est pas drôle.
Non, enfin c'est pas drôle, mais je veux dire la situation, elle devient quand même un petit peu cocasse à force de répéter les choses toutes les semaines.
Les mêmes choses.
Tu nous avais appelé cet été, Pierre.
Pardon.
Tu nous avais appelé cet été, Pierre.
Ça m'arrive de passer régulièrement pour parler du LOSC. Le constat est tout le temps le même, en fait. C'est ça le problème, c'est que plus le temps passe, plus on se rend compte qu'en fait, l'équipe est malade. Et on peut pas dire que c'est la faute de Bielsa. On peut pas dire que c'est la faute d'un tel ou d'un tel. Je pense que c'est un tout. Il y a une organisation qui a été mal gérée. Je pense que Gérard Lopez a mal calculé son coût. Après qu'il ait fait des emprunts au niveau des banques, etc., ça ne nous regarde pas. Je veux dire, ça aurait pu fonctionner si l'équipe serait dans le top 5 comme il l'avait prédit.
Exactement.
C'est pas le cas aujourd'hui. Je pense qu'il y a une synergie qui ne se fait pas parce qu'il y a des joueurs qui ne sont peut-être pas assez expérimentés sur le terrain. Il y a des joueurs qui ont été écartés, qui n'auraient pas dû être écartés. Je pense à Ryoma Vuba, je pense à Enyama, je pense à des joueurs comme ça qui avaient un certain impact dans le vestiaire. On a voulu faire table rase de ce qu'était le LOSC avant et je pense qu'on est en train de payer les pots cassés. Moi le premier parce que j'étais quand même très content et très confiant de ce nouveau projet.
Je me rappelle, t'étais passé cet été.
C'était par rapport au premier match de Nantes, on pouvait que être confiant. C'était une victoire 3-0, il y avait quand même des choses qui étaient encourageantes.
Et en prépa aussi Pierre. Hein.
Pardon ?
Les matchs de prépa aussi étaient encourageants.
C'est pareil, les matchs de prépa, il y avait une fluidité dans le jeu, c'était agréable à voir. On avait été quand même faire un bon match face à Atalanta, c'était encourageant. Aujourd'hui, on se demande si, en fait, le projet qu'avait lancé il y a quelques années, où on se foutait littéralement de leur gueule, excusez-moi du terme, en disant, ouais, c'est pas possible ce qu'ils sont en train de vivre, c'est pratiquement un bis repetita de ce que eux, ils ont fait, avec un projet qui se casse la tête. On a appris en plus sur RMC cette semaine que le président Rivière de Nice avait aussi refusé les approches de Lopez, qui avait été aussi refusé par Marseille. Donc, moi, ça me fait un petit peu penser. Au gars qui va en boîte de nuit, qui essaie de danser avec toutes les filles refusent.
Demande à Nico, c'est bien ça.
Moi, je suis marié.
Sauf une qui s'appelle Michel Seydoux, qui a bu un petit peu toutes ces belles paroles.
Ouais, et qui voulait se débarrasser du club aussi.
Mais Pierre, est-ce qu'aujourd'hui t'es flippé par la situation de Lille? Alors, il y a la situation sportive, on le disait à l'instant, le club est barragiste, mais là, la DNCG va interdire le club de recrutement. Il y a Bielsa qui pourrait coûter plus de 10 millions d'euros avec ce litige qui est lié à son départ. Visiblement, il y a d'autres choses qui sont peut-être derrière, qui sont liées aux emprunts, à des garanties bancaires qui sont pas forcément très solides. T'as pas un peu peur là pour le LOSC?
Ça, je pense que c'est grave, on ne s'en rend peut-être pas compte. Et je pense que l'argument principal, c'est le fait que Gérard Lopez ne communique pas du tout sur ces dernières semaines vis-à-vis de cette situation-là. Je trouve ça...
Ah bah si, on a eu droit à un communiqué après la décision de la DNCG. On est très étonné par la décision qui a été prise. Voilà.
C'est tout. Mais pour nous, ce qu'on aimerait bien savoir à Lille, c'est pourquoi. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi un investisseur qui a mis 70 millions d'euros dans le recrutement n'est pas capable d'aligner quelque chose de potable, entre guillemets, devant le gendarme des comptes? Qu'est-ce qui se passe à Lille, en fait?
Je pense,
on ne sait pas du tout.
Je ne vais pas t'apporter de réponse, Pierre. Mais tu sais, pour moi, donc je pourrais avoir été très optimiste et enthousiaste par rapport à ce qui se passait cet été. Quand tu regardes, on va pas revenir à Vélez ou chez les Newells où ça serait trop compliqué, trop long de refaire l'historique. Mais quand tu regardes ce qu'a fait Bielsa en club, à Bilbao, il avait un garde-fou. Le garde-fou, c'était les joueurs locaux, de jouer avec des Basques seulement, avec une capacité de recrutement qui était donc limitée à cette identité régionale. À Marseille, quand il arrive, il avait un autre garde-fou. C'était un fonctionnement de la direction sportive qui était un peu flou, et surtout des cadres qui étaient déjà en place et qui étaient impossibles. C'était impossible de s'en débarrasser. C'était pas des joueurs sur le déclin comme Mavouba et Enyama. C'était des Gignac, des Ayou qui avaient des gros salaires. Et du coup, je pense que ces garde-fous lui permettaient d'assurer un certain équilibre. Là, t'es arrivé, tu lui as enlevé tous ces garde-fous et il est arrivé ce qui s'est passé.
Merci Pierre de nous avoir appelé. Bonne soirée à toi. À bientôt.
Merci,
Pierre.
Au revoir.
Salut Pierre. On va se faire une petite pause.
Ils n'ont pas gardé le fou.
Vous savez qui en sera dans quelques instants, messieurs?
Avec le
Olivier Dalloglio, l'entraîneur de l'équipe de Dijon, qui s'est imposé 3-0 face à cette équipe de Lille, justement. À tout de suite avec Olivier Dalloglio dans l'After.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Avec Ali Benarbia, avec Jonathan McCarty, avec vous au 32-16 également et sur l'hashtag RMC Live. On rappelle que ce soir, l'équipe de Dijon s'est imposée 3-0 face au LOSC. Et il est en direct avec nous dans l'after, il nous fait le plaisir d'être avec nous. Olivier Dalloglio, l'entraîneur du DFCO de Dijon. Bonsoir Olivier.
Bonsoir à tout le monde.
Bonsoir,
merci
Olivier.
Beaucoup d'être avec nous. Bravo Olivier pour cette belle victoire 3-0 face à Lille.
Ouais, merci. Oui, on a vu une belle première mi-temps et effectivement, on a fait la différence cette première mi-temps. Deuxième mi-temps était un peu plus difficile, mais bon, le score a été déjà bien large donc sur cette première mi-temps, donc on a pu gérer derrière.
Alors, il y a quelques jours, vous étiez très en colère après la défaite face à Guingamp. Vous aviez dit que vous étiez écœuré après le 4-0 infligé. On a l'impression qu'il y a deux Dijons. Le Dijon à domicile qui vient d'enchaîner une cinquième victoire d'affilée et le Dijon à l'extérieur. Comment vous l'expliquez, ça, cette différence?
C'est souvent la question qu'on me pose, et puis on essaye d'avoir des réponses. C'est une question d'attitude, déjà. Je trouve qu'à la maison, on est parfois porté par un certain enthousiasme. Et une certaine efficacité aussi offensive. Par contre, à l'extérieur, où on a besoin d'être un peu plus solide, mais il y a parfois du laxisme. Et c'est parfois des erreurs individuelles aussi, des comportements qui c'est pas toute l'équipe. Là, par exemple, à Guingamp, on avait 2-3 joueurs qui étaient en dedans. Bon, on a joué à 10 aussi pendant une heure, donc un peu plus d'une heure. C'est vrai que c'est compliqué, mais effectivement, on a ce problème à régler quand même.
Ouais, Ali Benarbia, une question pour vous, Olivier Dalloglio, qui est en direct avec nous dans l'after.
Bonsoir, Olivier.
Salut, Ali.
Salut. C'est un petit peu compréhensible dans le sens qu'à domicile, une équipe, surtout un promu comme Dijon, je veux dire, se retrouve surtout à gagner des matchs. Et je préfère même, devant les supporters et le club, c'est beaucoup mieux intéressant de gagner à domicile et de perdre à l'extérieur que le contraire pour le club. C'est plus important.
C'est vrai.
Et ils se sentent par obligation, moi je pense, cette équipe-là, de ne pas perdre, de tout donner à domicile, alors qu'à l'extérieur, ils se disent, bon, on n'a pas autant de chance, on va faire notre maximum. Mais la question que je te posais, Olivier, toi qui étais arrière latéral, le fougueux, défenseur et tout, je suis quand même assez impressionné que tu fasses, depuis un certain temps, jouer ton équipe avec pas des gros moyens, un très bon football. Ça, je suis très impressionné et je te dis bravo.
Bah, ça veut dire qu'on peut faire du beau football sans forcément avoir
beaucoup
de moyens, Olivier.
Ouais.
Non, mais c'est vrai. Bon, en plus, c'est vraiment ma philosophie de jeu là-dessus, c'est que j'aime bien repartir de derrière. Des fois, on est aussi en difficulté. On aime créer du jeu, ça c'est sûr. Hein. C'est plutôt la philosophie parce que je pense que le foot est d'abord un spectacle. Donc, on veut faire ce spectacle parce qu'on est à Dijon et qu'on va attirer du monde et qu'on est un petit club. Donc oui, on est capable, mais aujourd'hui, par exemple, cette année, je pense qu'offensivement, j'ai vraiment les moyens de marquer pas mal de buts parce que j'ai des joueurs vraiment intéressants. Et ça commence, c'est-à-dire ça commence à se voir depuis un bout de temps parce qu'on se crée pas mal d'occasions. Maintenant, on est un peu plus efficace encore dans la finition. Mais la philosophie générale, bon, en accord bien sûr avec tout l'ensemble du club, c'est voilà d'aller vers l'avant. On l'a fait en Ligue 2. On a réussi à monter comme ça. Et on m'a souvent posé la question, est-ce que si tu montes en Ligue 1, tu vas continuer? Et ben, on a pris le pari risqué de continuer sur ce genre de jeu. Tant que ça marche, bon, ben, c'est-à-dire, on va continuer.
Dijon est 8e au classement avec 24 points. Vous avez le même nombre de points que Strasbourg, on est d'accord? Le DFCO, c'est oui. largement meilleur que le Racing, hein, Olivier. Alors, vous savez pourquoi je vous demande ça?
Oui.
Devinez qui est en direct avec nous dans l'after. Thierry Loret, dis donc.
Ah ouais, bah Thierry Loret, bah oui.
Thierry, il est là Thierry
bah,
ou pas?
Ça, il va être en colère.
Mais oui, bien sûr, je suis là. J'écoute studieusement ce que vous êtes en train de dire. Ça va, Olivier, je te félicite. C'est bien, je suis content pour toi.
Ouais, félicitations à toi, ouais, c'est bien. C'est,
oh,
bien.
C'est merveilleux, ouais, l'after, c'est la grande famille ouais. du foot.
Oui, oui, non, mais attends.
Bah,
oui.
Non, mais Olivier, c'est une longue histoire. On a passé des diplômes ensemble, on s'est rejoué
en France.
Donc c'est, voilà.
Ouais, des soirées, tout ça, je sais, Thierry.
Ouais, mais attends, ils se félicitent parce qu'ils sont bien classés. J'espère que ça va durer. Attention, les deux, là.
On va essayer, oui, il faut que ça dure. C'est pas le tout de jubiler aujourd'hui, mais il faudra qu'on jubile à la fin de la saison. Mais bon, non, avec Thierry, c'est un ami, on se connaît depuis longtemps, on est de la même année, donc on est déjà très vieux tous les deux. Et on est passionné. Donc voilà, ça fait plaisir de l'entendre.
Olivier, si vous pouviez prendre un joueur de Strasbourg, ce serait lequel?
Thierry Loret.
Ah, c'est pas un joueur.
Ah ouais, je prends Thierry. Non, ben, y a...
non, vous avez plus de boulot après si vous prenez Thierry.
Moi j'aime bien les attaquants comme Terrier qui joue, qui percute, qui sont inventifs. Donc,
Il appartient à Lille, il fallait demander aux dirigeants de tout à l'heure.
Cette année, il appartient à Strasbourg. Hein, donc, voilà.
Bon Thierry, si tu pouvais prendre un joueur de Dijon, ce serait lequel?
Oh, il y en a pas mal. Il y en a quelques-uns qui sont intéressants, franchement. Voilà. Il y a des garçons qui sont assez méconnus, mais qui sont vraiment performants dans son équipe. Des garçons comme Amalfitano, Sheka, Jano.
Ça veut dire qu'il en veut pas.
Franchement, il y a des bons joueurs.
Jonathan Macardy.
Bonsoir Olivier, écoutez bravo pour cette nouvelle victoire.
Bonsoir à Thierry par contre.
Bonsoir Thierry aussi voilà. Bien sûr.
Ouais,
en fait, je voulais rebondir en fait sur ce dont vous parliez avec Ali sur le fait d'être un peu plus solide et plus performant à domicile. Moi ce que je trouve quand même phénoménal c'est de voir vos compositions d'équipe et de voir que vous avez quand même quasiment, je vais pas dire 6 joueurs offensifs mais presque pour un promu, je trouve ça extraordinaire. Le milieu de terrain avec Abeid, Amalfitano, Samaritano, Oun et les deux attaquants, vous avez pas l'impression parfois d'être un peu trop enthousiaste et de tenter trop le tout pour le tout parce qu'il y a quelques matchs où j'ai quand même l'impression que ça aurait peut-être pu ramener un petit point en étant un peu plus frileux.
Bon, je pense que oui, on a la possibilité de ramener des points, mais je pense pas sincèrement avoir une équipe capable de jouer plus défensif.
Okay,
sinon, sincèrement, je le ferai. Mais par moment, notamment quand je suis en équipe à l'extérieur qui est un peu plus fébrile, je le ferai. Mais j'ai aujourd'hui, je dois composer avec les joueurs que j'ai. Et aujourd'hui, c'est plus.
Franchement, bravo, parce que c'est enthousiasmant à voir. Et quand on voit la gueule du milieu de terrain, on se dit quand même, c'est cool. Il en a pour mettre mieux là à chaque fois. Bravo. Hein.
Je voulais poser une question à Thierry.
Oui, alors on remercie quand même Olivier. On va pas vous retenir toute la soirée. Merci beaucoup. Rendez-vous avec Thierry le 20 janvier. Vous le savez ça, hein, à Strasbourg.
Ah oui, Coupe de France, ouais, bien sûr.
Même avant.
Il y a la Coupe de France entre temps.
Ancien joueur de Strasbourg, Olivier.
Merci beaucoup, Olivier.
Je retourne à la maison.
Merci beaucoup Olivier, bonne soirée.
Bonne chance Olivier.
Salut Thierry.
Salut Olivier.
Voilà, on reste avec Thierry Loret qui est en direct avec nous dans l'after. Alors Thierry, voilà un autre homme qui est heureux, qui s'est imposé 2-1 face à Toulouse. C'était dur comme match Thierry. Hein.
Ouais, compliqué, oui, c'est vrai. On a ouvert le score, ce qui était plutôt une bonne chose. Et puis on s'est fait égaliser assez rapidement. Et c'est vrai qu'on n'a pas réussi à vraiment se mettre suffisamment en position en première mi-temps. Et puis on a rectifié un peu le tir en seconde. On a eu pas mal de possibilités de marquer le troisième. Et quand tu mets pas le troisième, bah tu n'es jamais à l'abri de te faire égaliser. Voilà. Donc jusqu'à la fin, on a un peu tremblé, mais bon. Je pense que sur l'ensemble du match, c'est mérité.
Ah, ça allait, franchement. Thierry, vous avez vraiment tremblé sur le match, honnêtement.
Oui, parce que
ils ont eu leur moment, Toulouse, quand même.
Ils étaient inoffensifs.
Certains de vos confrères, quand vous avez Delors, Gradel, Imboula, c'est des garçons qui sont habiles avec le ballon, qui sont capables dans les derniers mètres de faire des gestes de très très haut niveau. Donc voilà, vaut mieux se mettre à l'abri, de façon à mieux pouvoir gérer tranquillement.
Ali Benarbia, une question pour Thierry.
C'est surtout qu'on t'avait eu il y a pas longtemps et tu commençais à en avoir vraiment marre de faire des nuls, des matchs nuls, et tu sentais que t'avançais pas. Alors c'est plus dans les zones de vérité où ton équipe elle a changé, elle est plus costaud défensivement et elle marque plus de buts. C'est ça qui a changé et que vous enchaînez les points.
J'écoutais Olivier à l'instant et on a sensiblement le même problème, quoi. Je veux dire, on a un jeu qui est assez porté vers l'avant. Défensivement, on a fait très peu de matchs sans prendre de but. Donc finalement, on s'est dit qu'il fallait marquer des buts, quoi. Voilà. Donc on essaie d'aller assez vite vers l'avant et de se retrouver en position. On a tout le temps on a la chance aussi d'avoir des joueurs offensifs qui sont performants. Pas mal d'efficacité sur les derniers matchs parce que ce soit à Bordeaux, contre Paris, en championnat, avec très peu d'occasions, on a réussi à être très, très, très dangereux. Donc bon, c'est quand même avantageux. Et puis derrière, c'est vrai qu'on prend aussi moins de buts. Les garçons ont fait des efforts. Exactement. Et donc, on prend moins de buts sur les 9 ou 10 derniers matchs. Je pense qu'on est positif. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Voilà.
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi si je vous dis que sur les 5 derniers matchs, j'ai l'impression que vos milieux de terrain, là, avec Aoulou, Goncalves et Martin, ça se trouve beaucoup mieux. Et justement, ça arrive beaucoup mieux à assurer l'équilibre de l'équipe, tant défensivement qu'offensivement.
Ouais, ouais. Vous oubliez Lienard aussi, qui fait une grosse saison
aussi. Tu connais la devise de l'After, Thierry. Hein. Ils ont Neymar, on a Lienard. C'est Gilbert Bribois qui l'a inventé. Ouais.
Mais non, disons que voilà, c'est des garçons qui découvraient pour certains, enfin pour la plupart, que ce soit Consalves, Aoulou, Lienard, qui découvraient la Ligue 1, qui savaient pas trop où ils allaient se retrouver. Et donc il a fallu un petit temps d'adaptation. Et puis maintenant, bah, ça y est, ils ont lâché les chevaux. Le fait de battre Paris aussi en championnat avec,
ça
bien l'admettre, un peu de réussite, mais on l'a fait quand même. Ça nous a permis aussi de libérer pas mal de choses, de repousser un peu les limites. Et voilà, derrière on arrive à enchaîner. Donc c'est plutôt bien. Voilà, moi je suis plutôt satisfait de voir ce que je vois, voilà, en termes de jeu.
C'est
en
équilibré, c'est cohérent, c'est bien.
Ouais, après, il y a un peu de déchets techniques, malheureusement, mais bon, quand il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie, beaucoup de jeux vers l'avant, forcément, vous exposez un peu à ça, malheureusement.
Mais on a l'impression que les joueurs savent tous ce qu'ils doivent faire, que l'équipe est vraiment soudée, que le bloc est hyper cohérent.
Surtout, c'est qu'il y a beaucoup de turnover, tu fais quand même pas mal tourner, notamment en attaque, et que ça joue toujours aussi bien, quoi.
Disons qu'on a des attaquants qui s'investissent complètement quand on leur donne leur chance. Voilà, aujourd'hui Martin Ferrier était blessé. Stéphane avait fait 2 gros matchs dernièrement. Donc bon, on l'a fait souffler. On savait que Jérémy Blayac, c'est un garçon qui a été formé à Toulouse. Donc forcément, en lui donnant sa chance contre Toulouse, ça allait le rendre certainement encore plus investi. Et donc voilà, donc après, on fait quelques paris quelques fois dans les compositions d'équipe. Ça marche ou ça marche pas, mais bon, ça a au moins le mérite d'exister. Et surtout, ça a le mérite de faire jouer des garçons qui ont envie et qui montrent qu'ils ont vraiment envie de se battre pour les couleurs du club. Voilà,
moi, je pense, Thierry, je suis beaucoup plus d'accord avec toi qu'avec les victoires qu'il y a eu contre les bonnes équipes, ils se sont rendus compte qu'eux aussi ça avait des qualités et donc maintenant ils jouent sans se poser des questions et c'est ce qui fait la différence.
Oui, mais il faudra, alors après Ali, tu connais l'histoire, le revers de la médaille, c'est que voilà, il faudra qu'on cherche à surjouer aussi par moment, qu'on garde une certaine rigueur défensive qu'on a actuellement, parce que je trouve que c'est plutôt pas mal. Ce soir, on prend un but sur un coup franc qui est mal repoussé, une frappe de loin. Bon, voilà, ça nous était déjà arrivé contre Nantes. Il va falloir qu'on corrige un peu ça. Mais dans le jeu, on n'a pas été excessivement en danger non plus. Donc, ça prouve que défensivement, tout le monde fait le travail. Et surtout qu'offensivement aussi, on marque des buts, on s'est créé pas mal d'occasions. Donc, ça veut dire que l'équipe a trouvé un certain équilibre. Après, l'équilibre, on sait aussi que quelquefois, c'est précaire au niveau professionnel. Quelquefois ça fonctionne, on sait pas toujours pourquoi, et quelquefois ça marche pas et on a du mal aussi à voir pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc c'est assez tenu comme fil et faut faire attention régulièrement, quoi.
Merci beaucoup Thierry Loret d'avoir été avec nous. Merci Thierry, à très bientôt. Bonne soirée Thierry, encore bravo pour cette victoire.
Ciao.
Donc Strasbourg s'est imposé 2-1 face à Toulouse. Le dernier match de Strasbourg avant la trêve, ce sera à Metz qui s'est imposé ce soir 3-1 à Montpellier face à l'une des meilleures défenses de Ligue 1. On en reparle.
RMC, le Super Football Show, l'After Foot.